RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Xavier Besson.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Une femme de première à la une ce matin, Kirsty Coventry, la Zimbabwéenne, devenue hier la première femme et aussi la première personne issue du continent africain, élue dès le premier tour à la tête du CIO, le Comité International Olympique, où elle prend la suite de l'Allemand Thomas Bach. Son portrait dans un instant. Dans ce journal également, le déplacement au Rwanda du chef de l'armée ougandaise, une nouvelle initiative de dialogue en République démocratique du Congo, alors que les rebelles M23 ont pris le contrôle de l'agglomération de Walikale Centre dans la province du Nord Kivu. Nous serons aussi en Centrafrique. Deux frères de l'ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra ont été arrêtés, soupçonnés d'être liés à une tentative d'empoisonnement du président. Et au Tchad, où le chef de l'État nomme son frère au poste stratégique de secrétaire particulier du président. En correspondance, N'Djamena dans quelques instants. Les six autres candidats n'ont pas fait le poids hier face à Kirsty Coventry. Et c'est au premier tour de scrutin que la Zimbabwéenne a été élue à la présidence du CIO, le Comité International Olympique, première femme et première représentante du continent africain à la tête de l'organisation. Son portrait avec Paul Lorgerie.
Kirsty Coventry était certes la seule femme candidate, mais elle était également la plus jeune de tous du haut de ses 41 ans. Née à Harare en 1983, elle baigne dans une famille de nageurs qui lui apprend la discipline dès son plus jeune âge. Habituée des Jeux du Commonwealth à ses débuts, elle participe à ses premiers Jeux Olympiques en 2000, avant de décrocher son premier titre olympique 4 ans plus tard, à Athènes, lors de l'épreuve du 200 mètres d'eau, titre qu'elle renouvelle à Pékin en 2008. Un palmarès auquel s'ajoute une multitude de médailles d'or, d'argent et de bronze dans différentes compétitions internationales. Petite fille de colon, on se souvient qu'elle avait été reçue avec les honneurs lors de son retour au pays après les Jeux. Le président d'alors, Robert Mugabe, la qualifie d'enfant du Zimbabwe et de fille en or. En 2013, elle entre au CIO en tant que représentante de la commission des athlètes, poste qu'elle occupe jusqu'en 2021, année où elle devient membre individuel. Entre-temps, la nageuse devenue maman d'une petite fille embrasse une carrière politique en 2018, devenant ministre zimbabwéenne de la jeunesse, des sports et des arts, fonction qu'elle occupe encore aujourd'hui.
Paul Lorgerie, hier, Kirsty Coventry a reconnu que son élection était, je cite, un signal fort pour devenir une organisation, dit-elle, véritablement ouverte à la diversité. Parmi les réactions à son élection, il y a notamment celle de Vladimir Poutine, président d'une Russie dont les athlètes ne peuvent participer aux compétitions olympiques qu'à titre individuel. Vladimir Poutine l'a félicité et il s'est dit convaincu de son intérêt pour la promotion, dit-il, des nobles idéaux olympiques. Et l'Union africaine, elle aussi, a réagi, saluant une élection historique, l'UA qui se dit très heureuse de voir Kirsty Coventry faire tomber les barrières en ouvrant la route à un avenir équitable et inclusif pour les sports.
RFI.
Ils parleront sans doute de l'Est congolais, l'Est de la République démocratique du Congo, où Kigali soutient les rebelles du M23 dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, et où l'armée ougandaise est déployée, elle, aux côtés de l'armée congolaise en Ituri, mais aussi, par ailleurs, accusée par des experts de l'ONU de soutenir le M23. Le chef de l'armée ougandaise, Muhoozi Kainerugaba, est arrivé à Kigali hier, et il est prévu qu'il rencontre le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, correspondance de Lucie Mouillot.
À son arrivée à l'aéroport de Kigali, le général Muhoozi Kainerugaba a été accueilli par son homologue rwandais, le chef d'état-major et général Mubarak Muganga. Accompagné par le journaliste Andrew Mwenda, l'un de ses proches conseillers, et le général de brigade Asingura Kagoro, responsable juridique de l'armée ougandaise, le fils du président Yoweri Museveni doit au cours de sa visite, selon le communiqué des UPDF, rencontrer plusieurs dirigeants militaires rwandais ainsi que le président Paul Kagame. Fin février, le général annonçait déjà sur les réseaux sociaux son déplacement prochain à Kigali, ajoutant qu'il signerait un pacte de défense entre l'Ouganda et le Rwanda. Pas de référence à ce pacte dans le communiqué de Kampala, qui déclare simplement que cette visite souligne, je cite, « les efforts continus pour renforcer la collaboration et la compréhension mutuelle entre les forces armées des deux nations ». Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Et à propos de l'Est de la RDC, sachez que le M23 occupe désormais l'agglomération de Walikale-Centre, province du Nord-Kivu. Walikale, au cœur de la région minière, et également sur la route de Kisangani, même si la capitale de la province de la Tchopo est tout de même à plus de 400 km. Dans le même temps, à Kinshasa, la plateforme des confessions religieuses lance à son tour une initiative de dialogue, à l'image de ce que font déjà depuis plusieurs semaines les églises catholiques et protestantes de RDC. La plateforme des confessions religieuses, ce sont notamment les musulmans, les orthodoxes et les églises évangéliques et kibanguistes. Le pasteur Évariste Ejiba Yamapia, le président de la plateforme, explique ce matin le sens de la démarche.
Concrètement, c'est sensibiliser la population, c'est aussi parler aux acteurs dans tous les secteurs, secteur politique, secteur social, pour montrer l'importance que nous devons la cohésion nationale. Nous n'avons qu'une seule patrie et donc nous devons travailler pour sa survie.
Concrètement, vous comptez faire ce que font déjà les évêques catholiques et les pasteurs protestants?
Il n'y a aucune rivalité. Mais il peut y avoir complémentarité pourvu que le peuple congolais en soit gagnant. Ce n'est pas une rivalité d'un camp contre l'autre. Nous nous présentons une initiative inclusive, transparente.
Comptez-vous rencontrer l'AFC M23 à Goma comme l'ont fait les autres?
Nous disons que ceux qui peuvent contribuer à la paix seront consultés parce que nous avons besoin de la cohésion nationale pour vaincre la guerre et pour que notre peuple soit uni. Tous les Congolais seront consultés.
Évariste Ejiba Yamapia, le président de la plateforme des confessions religieuses de RDC, au micro de Pascal Moulégua. Et sachez aussi qu'hier s'est tenue la deuxième audience du procès des généraux de l'armée et de la police accusés d'avoir fui face à l'avancée des rebelles du M23 à Goma. Les juges ont décidé que l'audience se déroulerait à huis clos. Elle a été consacrée principalement à des questions de procédure. La cour prévoit de répondre à ces questions mardi prochain. Et ensuite, on devrait pouvoir aborder le fond de l'affaire. RFI 7h37 à Bangui, en Centrafrique, l'ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra a pris la parole hier. Il a parlé d'arrestation arbitraire et illégale après l'interpellation la nuit précédente de deux de ses frères, tous les deux soupçonnés d'être liés à une tentative d'empoisonnement du président Faustin Archange Touadéra. Précision et explication avec Alexis Guilleux.
Selon des proches, le notaire Christian Dondra a été interpellé dans un restaurant de la capitale centrafricaine, tandis que son frère Eusebe Dondra, cadre au ministère des Finances, a lui été arrêté à son domicile aux environs de 1h du matin. Hier matin, plusieurs membres de leur famille ont manifesté devant les locaux de l'Office central de répression du banditisme où ils sont détenus en exigeant leur libération immédiate. L'ancien Premier ministre de Faustin Archange Touadéra et aîné de la fratrie Henri-Marie Dondra a qualifié ces arrestations d'arbitraires et d'illégales. Il pointe le fait qu'ils ont été arrêtés après minuit. Pressenti comme candidat à la présidentielle de décembre 2025, son entourage voit dans cette double arrestation une machination montée de toutes pièces pour le mettre en difficulté. Dans un communiqué publié hier soir, le parquet assure que Christian et Eusebe Dondra ont été interpellés dans le cadre d'une procédure relative à un projet d'assassinat avec comme objectif final, je cite, le renversement de l'ordre constitutionnel. Selon une source policière, il s'agirait d'un plan pour empoisonner le président Archange Touadéra et un de ses proches conseillers, Sani Yalo. Au cœur de cette accusation, un enregistrement vocal non encore authentifié dans lequel on entend une femme et un homme discuter d'un projet d'empoisonnement à base de cigares et d'une bouteille de whisky.
Alexis Guilleux, au Tchad, la politique est bien une affaire de famille. C'est à son père que l'actuel chef de l'État a succédé à la mort de ce dernier en 2021. Et avant-hier, Mahamat Idriss Déby a nommé son petit frère Daoussa Idriss Déby Itno au poste de secrétaire particulier du président. N'Djamena, correspondance de Nadia Ben Mahfoud.
Discret, calme, posé ou encore efficace, c'est ainsi qu'est décrit Daoussa Idriss Déby par ceux qui le connaissent. Il faudra désormais passer par lui pour accéder au chef de l'État. Daoussa Idriss Déby était jusque-là l'adjoint d'Ahmed Kogri au secrétariat particulier de la présidence et ce dernier en poste depuis février 2024 était arrivé en bout de course. Selon certains proches, il était aussi critiqué pour sa proximité avec la France. Les deux frères Mamat et Daoussa sont proches depuis l'enfance et selon des chercheurs tchadiens, par cette nomination, l'entourage du président se resserre dans un cercle familial et amical de confiance. Trois hommes forts entourent désormais le président, son ami Ismaël Souleymane Loni, directeur général de l'Agence nationale de sécurité de l'État, son frère cadet Abdelkerim Idriss Déby, conseiller aux affaires africaines et internationales de la présidence, et Daoussa Idriss Déby, donc au secrétariat du président. Selon le professeur Avoksou Madjona Achenemou, opposant et président du parti Les Démocrates, depuis plus de 30 ans, le Tchad est dans un système dynastique où les décrets et les arrêtés servent à nommer des membres de la famille au pouvoir. Déby perd lui aussi privilégier la famille. Fin de citation. Nadia Ben Mafoud, N'Djamena, RFI.
Les mois passent et le dossier n'avance que très lentement, voire pas du tout, au Cameroun. L'affaire Martinez-Zogo continue de s'enliser. Plus de 2 ans après que le corps sans vie de l'animateur radio a été retrouvé à Yaoundé, le procès des 17 accusés n'est toujours pas entré dans le vif du sujet. Au tribunal militaire de la capitale camerounaise, un recours est en ce moment entre les mains de la cour d'appel. Et là aussi, cela prend du temps. Amélie Tulé.
Nouvelle requête, nouveau délai. Deux parties au dossier ont décidé de récuser 2 juges de la cour d'appel. L'avocat des services de renseignement de l'État camerounais et l'avocat d'une partie de la famille de Martinez Zogo mettent en cause l'impartialité des magistrats et demandent leur remplacement. Obligée d'examiner leurs arguments, la présidente de la cour d'appel du centre doit se prononcer sur la demande d'ici le 17 avril. 4 semaines supplémentaires donc avant de pouvoir relancer les débats sur la procédure et sur les manquements que les parties disent avoir identifié dans le travail du tribunal militaire. L'avocat de l'un des accusés se dit étonné par le choix de ses confrères. Maître Seri Simpli Zoku déplore la demande de récusation, un procédé dilatoire selon lui pour prolonger la détention de son client, l'ancien patron des renseignements camerounais Léopold Maxime Eko-Eko. Plutôt une démarche pour défendre le droit, selon l'avocat de l'État du Cameroun, Maître Claude Assira, dans un dossier qu'il qualifie de vérolé. Toutes les pratiques interrogent sur la sincérité des acteurs, dit l'avocat. Nous ne sommes pas nombreux à chercher la vérité dans cette affaire.
Amélie Tulé, dans l'actualité des pays africains ce matin également, le Soudan, où l'armée nationale continue son avancée dans la capitale, Khartoum. Armée qui reprend régulièrement du terrain depuis plusieurs semaines à ses ennemis paramilitaires FSR. Ce matin, la télévision nationale soudanaise affirme que les soldats ont repris le contrôle du complexe présidentiel, palais qui était depuis 2 ans contrôlé par les FSR. Enfin, l'eau est bien un sujet majeur pour l'Éthiopie, l'eau douce du Nil, sur lequel Addis Abeba a construit un gigantesque barrage qui lui vaut des relations difficiles avec les pays situés en aval. Et l'eau de mer, l'Éthiopie est enclavée depuis l'indépendance de l'Érythrée. Et hier, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a répété que son pays n'avait pas l'intention d'envahir son voisin érythréen, alors que les relations entre les deux pays sont de plus en plus tendues. Il s'est exprimé hier, le premier ministre éthiopien, devant l'Assemblée générale à Addis Abeba.
Notre besoin d'obtenir un port sur la mer Rouge, que ce soit via la Somalie, Djibouti ou l'Érythrée, ne devrait pas causer de conflit avec ces pays. Je tiens à dire devant cette assemblée que l'Éthiopie n'a aucun désir d'attaquer l'Érythrée afin d'obtenir un port sur la mer Rouge. Notre seul désir est de discuter, de négocier, de participer au commerce mondial. Nous ne voulons pas de conflit, nous ne voulons pas de guerre. Nous entendons de nombreuses accusations de la part du peuple érythréen notamment, mais ces accusations ne tiennent pas la route. Nous n'anticipons pas une attaque des pays voisins. Nous nous sommes équipés, mais la seule raison pour laquelle nous l'avons fait est pour maintenir la paix. Lorsqu'il y a eu le conflit entre le Kenya et la Somalie, nous avons été médiateurs. Nous avons aussi fait la médiation au Soudan du Sud. Nous voulons la paix dans cette région.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, des propos recueillis pour RFI par Wely Diallo à Addis Abeba. Il est maintenant 9h44 et vous êtes avec Julien Coquelle-Rohem pour la suite d'RFI Matin.